VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30, temps universel, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 1er septembre 2017. Morgane Guiriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, les Kenyans, de nouveau appelés aux urnes pour élire leur président. La Cour suprême a invalidé la présidentielle du 8 août qui avait donné le président sortant Uhuru Kenyatta vainqueur.
Les Kenyans ne sont pas seulement champions dans l'athlétisme, ils sont aussi champions à la démocratie. Parce que la Cour suprême a le pouvoir d'annuler l'élection d'un président qui les a donné le travail à faire.
Nous y consacrerons une page spéciale législative au Congo-Brazzaville. Le parti du président Denis Sassou Nguesso a remporté les élections sénatoriales selon les résultats officiels. Et puis, bonne fête à tous nos auditeurs musulmans. La fête de la Tabaski a lieu aujourd'hui et dans plusieurs pays. Retrouvez Yacouba Ouédraogo à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Décision historique de la Cour suprême au Kenya. Elle a invalidé l'élection présidentielle du 8 août qui avait donné le président sortant, Uhuru Kenyatta, vainqueur. On fait le point avec Yacouba Ouédraogo.
La Cour suprême a déclaré à la majorité des 5 juges sur 7 que la présidentielle n'a pas été conduite en accord avec la Constitution. L'opposition a fait valoir, entre autres, des procès-verbaux non signés ou d'autres ne présentant pas les signes d'authentification de la commission électorale. Elle a évalué à plus de 5 millions le nombre de votes irréguliers. Le président de la Cour, David Maraga, a directement mis en cause la commission électorale, affirmant qu'elle avait, je cite, échoué, négligé ou refusé de mener l'élection dans la légalité. Elle lui a ordonné d'organiser un nouveau scrutin dans un délai de 60 jours, comme le prévoit la Constitution. Cette décision a été saluée par la coalition NASA et ses partisans, qui ont poussé des cris de joie aux alentours de la Cour suprême et à Mataré, l'un des bidonvilles acquis à l'opposition. Raila Odinga a affirmé n'avoir aucune confiance dans la capacité de la commission électorale à conduire une nouvelle élection. Pour sa part, le président sortant Uhuru Kenyatta s'est dit en désaccord avec la décision de la Cour, tout en affirmant la respecter. M. Kenyatta avait été proclamé vainqueur par la commission électorale le 11 août, avec 54% des voix contre un peu plus de 44% à Raila Odinga.
Lors de la proclamation des résultats provisoires, des manifestations de l'opposition avaient provoqué des violences meurtrières. Eric Manira Kizeja a joint un habitant de Nairobi, originaire de Burundi. Il s'agit de Jean-Pierre Nimbona.
À Nairobi, il n'y a pas de violence. Les sympathisants du parti de Raila Odinga sont dans les rues, en train de jubiler. Il y a une grande célébration des gens. Je ne vois pas aucun problème. Donc, le travail a continué. Les gens sont dans les travaux journaliers. Je l'ai écrit même dans mon Facebook que les Kenyans ne sont pas seulement champions dans l'athlétisme, ils sont aussi champions à la démocratie. Parce que je trouve étrange là où la Cour suprême a le pouvoir d'annuler l'élection d'un président qui les a donné le travail à faire et aussi cette immaturité politique que le Kenya vient de montrer au monde entier. Que chez eux, les organes du gouvernement, les organes de la démocratie, dont le Parlement, dont le pouvoir judiciaire, sont vraiment indépendants l'un de l'autre. Franchement, ici, c'est la paix et le président vient de lancer un message très fort qu'il faut que les gens embrassent la paix toujours. Alors, on continue la vie, nous sommes bien, ça va.
Le pasteur rwandais André Niyomsaba, qui réside à Nairobi depuis 20 ans, affirme que cette décision qui se fonde sur des irrégularités est la bienvenue. Il a été joint par Eric Abadou.
Il est apparu qu'il y a eu des irrégularités et alors à la base de ces irrégularités, en fonction de ces irrégularités, la Cour a décidé d'annuler les élections présidentielles qui ont eu lieu en août.
Pasteur Niyomsaba, est-ce que vous pensez qu'il n'y aura plus d'irrégularités ?
La commission électorale est assez claire à ce sujet et dit qu'elle est prête à reprendre des élections. Et même ces irrégularités que la Cour a relevées, ils vont essayer de corriger. Donc ils sont tous prêts et ils acceptent la décision de la Cour.
Est-ce une preuve de démocratie d'accepter et de retourner dans les urnes selon vous ?
Je pense que c'est la démocratie. C'est vraiment c'est la démocratie parce que toutes les parties prenantes acceptent effectivement la décision de la Cour et ils sont prêts à avancer, à aller de l'avant. Et les choses très intéressantes, c'est que les partis politiques appellent la population à rester calme et à continuer leur vie normale jusqu'à ce que les élections vont avoir lieu.
Les Kenyans doivent retourner aux urnes donc d'ici 2 mois. Le président de la commission électorale, Wafula Chebu Kati, affirme n'avoir commis aucune faute, mais il a implicitement mis en cause le personnel administratif de la commission. Eric Manirakiza a joint à Paris Benoît Hazard, anthropologue au CNRS et spécialiste du Kenya.
Je suis grandement surpris de la décision de la Cour suprême kényane. Raila Odinga ne croyait pas lui-même en la possibilité d'une invalidation de l'élection par la Cour suprême, puisqu'il s'y était essayé en 2013 et que l'opposition s'était heurtée à une justice relativement peu fiable. C'est un cas inédit et Raila Odinga l'a noté tout de suite, c'est-à-dire que c'est pas seulement un exemple pour le Kenya, mais c'est un exemple pour l'ensemble de l'Afrique.
Kenyatta, dans son discours, il a concédé.
Il ne pouvait pas en faire autrement, de toute façon, sauf à en passer par la force. Et on doit noter tout de même que les hommes politiques qui étaient proches de lui, qui sont proches de son parti, c'était eux aussi pourvoyés avec le NASA pour contester la validité ou des résultats promulgués par la ABC. Il est quand même dans une position probablement de faiblesse. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que ces résultats avaient été validés par des observateurs internationaux.
Justement, est-ce que ça met en cause la légitimité des observateurs internationaux ?
Ça met en cause la légitimité de pas mal de choses. La première, c'est que quand même, des fonds américains ont largement permis la tenue de cette élection et en particulier la transmission des résultats électroniques. Donc c'est tout un dispositif qui a été financé, si je ne me trompe, à hauteur de 24 millions de dollars en provenance des États-Unis. La fondation Carter et John Kerry lui-même et un certain nombre d'observateurs internationaux ont validé eux-mêmes ces résultats, alors même que deux rapports qui ont été présentés à la Cour suprême par l'opposition, moi je les ai eus sous les yeux, ils attestent non seulement de hacking, mais du fait qu'un certain nombre de résultats qui provenaient des Kunti n'étaient pas dans les bases de données de l'IBC. Donc enfin, on a des preuves évidentes sur le fait que l'IBC n'était pas en mesure de proclamer les résultats au moment où ils l'ont fait. Et c'est tout de même invraisemblable, effectivement, que des observateurs internationaux aient cautionné la possibilité même de proclamer les résultats. Donc là, Raila Odinga a aujourd'hui dans les mains une grande victoire, parce que ce n'est pas seulement une face à son opposant historique ou Kenyatta, mais c'est aussi une démonstration faite à la communauté internationale qu'elle peut être parfois très légère dans la manière de traiter les résultats d'élections, en particulier lorsqu'il s'agit d'élections africaines. Et je pense que là, il y a un véritable enseignement à tirer, quoi.
Du coup, la commission électorale est fragilisée.
Raila Odinga l'a noté tout de suite dans sa première déclaration de ce vendredi matin, c'est-à-dire que non seulement il acte de l'annulation des élections, mais la conséquence immédiate dans un discours qui est immédiatement suivi, ça a été de demander le changement complet de la commission électorale, c'est-à-dire que Sheikou Lati, qui dirige la commission électorale, est complètement fragilisé, qu'effectivement, on n'imagine pas que dans les 60 jours, la même commission électorale réorganise les élections, puisqu'elle a elle-même des fautes qui sont majeures et qui ont conduit à ces irrégularités. Ça pose beaucoup de questions, d'autant plus que, rappelons-nous qu'un des membres importants de cette même commission électorale, qui était un des membres perçus comme impartial dans la commission par l'opposition, a été assassiné une semaine avant les élections. Il s'agit de Christophe Msando et que l'affaire n'a toujours pas été élucidée. Donc effectivement, il semble difficile aujourd'hui de mener des élections à leur terme dans les 60 jours avec la même commission électorale. Il va falloir qu'il y ait de profonds changements.
Benoît Hazard, anthropologue au CNRS et spécialiste du Kenya. Dans le reste de l'actualité africaine, législative au Congo-Brazzaville, le parti du président Denis Sassou Nguesso a remporté les élections sénatoriales selon les résultats officiels publiés aujourd'hui. Le PCT, le Parti congolais du travail, a obtenu 44 élus sur 66 sièges en jeu lors de ce scrutin au suffrage indirect. Le vote n'a pu être organisé dans le Pool, dans le sud du pays, pays en raison de la situation d'insécurité due aux violences qui ont éclaté après la présidentielle contestée de 2016. Attaque hier soir contre un poste de gendarmerie à Djibasso, dans l'ouest du Burkina Faso, près de la frontière malienne. Un douanier burkinabé a été tué. Les assaillants étaient 6 individus armés à bord de motocyclettes, d'après les autorités. 3 motos ont également été incendiées. Dans le reste du monde, lutte contre le groupe État islamique en Syrie. L'alliance arabo-kurde soutenue par Washington a chassé l'organisation djihadiste de la vieille ville de Raqqa. Les forces se rapprochent de la zone la mieux fortifiée par les djihadistes, c'est ce que rapporte l'AFP. Et toujours au sujet du conflit en Syrie, de nouveaux pourparlers de paix entre le régime de Damas et les rebelles syriens se tiendront les 14 et 15 septembre à Astana. C'est ce qu'ont annoncé les autorités kazakhes. Au programme, le renforcement des zones de désescalade. Les grandes entreprises américaines à leur rescousse des immigrés, Amazon, Apple ou encore Facebook appellent Donald Trump à ne pas supprimer le DACA, un programme qui permet à des centaines de milliers de jeunes sans papier de rester aux États-Unis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique avec Jacques Aristide.
Moment d'agitation ce vendredi sur le marché financier kényan après que la Cour suprême du pays a invalidé la victoire du président Uhuru Kenyatta au scrutin du 8 août dernier en raison d'irrégularités et ordonné la tenue d'un nouveau vote dans les 2 mois à venir. Le principal indice boursier, le NSE 20, a perdu 5%, ses activités ayant même été interrompues pendant 1 heure. Pour des investisseurs, le verdict a plongé le Kenya, première économie d'Afrique de l'Est, dans une période d'inconnu et d'incertitude. En Côte d'Ivoire, la campagne de prêts personnels immobiliers à 6% de la Société Générale de Banque a été étendue jusqu'à fin 2017 sur la demande du gouvernement. Pour Abidjan, l'initiative de la SGBCI peut contribuer à réaliser le programme présidentiel de logements sociaux et économiques, soit 15 000 maisons d'ici 2020. Pioneer Foods, le leader sud-africain des biens de consommation de masse, notamment avec ses marques Ceres et Liquifruit, aura un nouveau patron dès le 1er octobre. Tertius Karsten, qui travaille pour la compagnie depuis 20 ans, remplacera Phil Roux, qui avait été nommé directeur général en 2013. Il part à la retraite le mois prochain.
Les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Éliminatoire Russie 2018, les Super Eagles s'envolent à la tête du groupe B.
Carton plein pour le Nigeria, 4-0 face aux Lions indomptables du Cameroun. Les Super Eagles se rassurent ainsi avec maintenant 9 points avant leur déplacement le 4 septembre à Yaoundé. Le Cameroun, deuxième, stagne à 2 points en attendant le duel des derniers du groupe Zambie-Algérie ce samedi.
Le Congo a tenu le Ghana en échec à Kumasi.
1-1 entre Black Star et Diable Rouge. Les buts sont signés Thievi Bufuma pour le Congo à la 18e avant l'égalisation de Thomas à la 85e. En rappel hier, dans ce même groupe E, les Pharaons ont cédé la place de leader au crâne de l'Ouganda après leur défaite 1-0 à Kampala.
Et puis, 2 affiches alléchantes à 20h GMT.
Tout à fait, Tunisie-RDC pour la suprématie du groupe A, dominé par les Léopards congolais à la faveur du goal différentiel, plus 5 pour la RDC et plus 3 pour la Tunisie. Les deux formations totalisent 6 points chacune. Pour le compte du groupe C, le Maroc deuxième avec 2 points reçoit le Mali, dernier du groupe, 1 seul point après les 2 premières journées.
Dans ce même groupe C, la Côte d'Ivoire défiera le Gabon demain.
Effectivement, les éléphants leaders avec 4 points tenteront de tenir les Panthères et leurs 2 points à distance dans cette double confrontation dont le premier acte aura lieu ce samedi à Libreville, coup d'envoi 16h temps universel. Le Gabon fera sans sa vedette Pierre Aubameyang et la Côte d'Ivoire avec Gervinho et Seridier de retour en sélection.
Toujours ce samedi, duel ouest africain, Sénégal-Burkina Faso.
À 20h GMT, Lyon de la Teranga et Étalon seront aux prises avec en ligne de mire La première place du groupe D, emmenée par le Burkina avec ses 4 points. Le Sénégal se retrouve troisième à une longueur de son adversaire avant cette double confrontation décisive pour la suite dans ce groupe.
Et merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Diriek, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Le Rwanda, pays enclavé d'Afrique, ne souhaite plus être seulement un point de transit. Par conséquent, les autorités de Kigali ont décidé de rendre plus attrayant ce pays connu mondialement pour ses gorilles, en visant une clientèle toujours touristique aisée. Gaby Dorsil nous en dit plus.
Le Rwanda, aussi connu comme le pays aux mille collines, a décidé de faire peau neuve en ce qui concerne le secteur touristique. Bien que réputé pour la présence de ces gorilles, une nouvelle stratégie a été mise en place par les autorités afin de rendre le séjour des touristes aisé, encore plus attrayant. L'une des actions incluses dans cette stratégie passe par l'augmentation des tarifs touristiques. Claire Akamanzi est responsable du Rwanda Development Board.
Notre stratégie est de développer un marché du tourisme haut de gamme, car notre tourisme repose essentiellement sur les ressources naturelles et nous sommes très stricts sur le sujet.
Cette nouvelle ne fait pas encore l'unanimité et des clients s'inquiètent déjà d'être marginalisés ou privés de certaines attractions. C'est le cas par exemple pour ce touriste, Hernaldo Soniega.
Ce n'est qu'une élite qui peut se payer cela. Si vous pensez à l'ensemble des frais, il y a aussi ceux des hôtels, des avions et ainsi de suite. Au final, vous faudra beaucoup d'argent pour venir voir les gorilles au Rwanda.
Les hôtels de milieu de gamme près du parc national des volcans disent qu'il est trop tôt pour en connaître les retombées et bien que plusieurs commerçants aient exprimé des inquiétudes liées à la perte de leur clientèle principale, d'autres sont plutôt positifs. La VOA a tendu son micro à Vincent Nsengeyumia, responsable de magasin.
Nous recevons déjà une clientèle riche qui est capable de payer le prix. Maintenant, nos revenus s'améliorent.
Suite à ces actions, le Rwanda a bien l'intention de devenir un pays touristique à part entière en proposant aux touristes des activités culturelles variées qui, par la même occasion, contribueront à la mise en place de moyens permettant la préservation de sa faune et de sa flore.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Sénégal, la date des fêtes religieuses musulmanes est souvent l'objet de divergences. Cette année, la Tabaski n'y a pas échappé. Certains Sénégalais la célèbrent aujourd'hui, tandis que la grande majorité le fera demain. Une discorde qui dure depuis plusieurs décennies.
Les divergences datent de longtemps et malgré plusieurs initiatives pour y remédier, le mal persiste, comme l'indique l'imam et écrivain Amadou Martani.
Il y a eu toujours ce flottement-là jusqu'à ce qu'en 1999, Mourchid Yann Thiam a proposé une commission pour essayer un peu de trouver un accord. Ça a aussi flotté parce que ce n'était pas tout le temps qu'il pouvait faire des arbitrages entre des gens qui disaient avoir vu et d'autres personnes qui s'opposaient à la validation de cette information.
Ce manque de consensus inquiète certains citoyens. Hassan Benjeloun pense que cela peut nuire à la cohésion sociale qui caractérise le Sénégal.
Ça ne peut être que négatif, vraiment. Ça ne peut être que négatif. Parce que le Sénégal a déjà incarné au niveau international qu'il est un pays où règne l'harmonie, où règne la cohésion sociale, où les différentes confréries sont unies. Et ces genres de choses, ça participe à la destruction de cette harmonie qui caractérise notre pays.
Un avis qui n'est pas partagé par Aminata Mbaye Fall. Cette dame estime que la cohésion sociale au Sénégal peut résister à cela. Mais elle indique néanmoins qu'il faudrait trouver une solution.
Je pense que c'est vraiment déplorable pour un peuple à 95% de musulmans. On aurait pu fêter la Tabaski ensemble. Mais chacun est libre de croire ou de suivre ce qu'il veut. Donc, pour moi, personnellement, il n'y a pas de souci. Les gens peuvent fêter le vendredi et le samedi. L'essentiel, c'est que cela se passe dans les meilleures conditions, dans la paix et dans l'harmonie.
L'imam Amadou Makhtar Kanté estime que pour résoudre définitivement ce problème, il faudrait une refonte totale de l'actuelle commission et une implication de l'État.
Ce qui explique maintenant quelle solution pour moi, c'est de refonder la commission actuelle pour en faire une vraie commission nationale, où toutes les sensibilités se retrouvent, donc on définit ensemble les critères et aussi l'organigramme, les missions, les antennes locales, la façon de collecter l'information, de la valider et aussi de définir une relation institutionnelle avec l'État pour que dès que l'État reçoit la décision de cet organe-là, que l'État puisse valider en disant c'est tel jour la fête pour le Sénégal.
Pour résoudre le problème des divergences sur les dates des fêtes religieuses au Sénégal, plusieurs pistes ont été étudiées. Mais la plus persistante demeure l'implication des astronomes. Ces derniers semblent être les seuls capables à rassembler tout le monde autour de l'essentiel, à savoir avoir une même date pour les fêtes religieuses au Sénégal. Sedina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Et nous partons au Mali, à l'instar de la communauté islamique a célébré ce vendredi la fête de l'Aïd El Arda, communément appelée fête de la Tabaski ou bien fête du mouton. Alors cette fête du mouton en sacrifice en souvenir du sacrifice d'Abraham, il n'empêche que la commémoration de ce sacrifice actualisé chaque année par le sacrifice d'animaux est devenue la grande fête. Cette année, la fête est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale au Mali. On fait le point avec Kassim Traoré.
Les grandes places et les espaces étaient tous occupés par les fidèles musulmans. Les imams, dans leurs différents sermons, ont parlé de l'importance du sacrifice d'Abraham, mais surtout de paix et de réconciliation au Mali.
Fais-moi des pardons, des paix pour tous les musulmans. Dans la situation actuelle de notre pays, c'est donc le lieu de dire à tous de faire la paix, d'oublier tous nos différends, et c'est dire que l'islam qui nous unit est le plus fort.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sera fier devant les anges en leur disant que vous avez dit, si je crée les êtres humains, je les mets sur la terre, ils vont me désobéir. Voilà, ils sont en train de m'adorer.
Si le sacrifice animal garde aujourd'hui toute sa pertinence, et si le partage et le don de la viande perpétue l'hospitalité sacrée d'Abraham, il importe de ne pas perdre de vue le sens premier du sacrifice, c'est-à-dire la purification intérieure.
La fête du mouton, c'est un acte de souvenir. Souvenir de la foi d'Abraham. Souvenir de la soumission totale d'Abraham à Dieu. Abraham qui a accepté sacrifier son fils unique, Ismaël, à Dieu pour prouver sa foi. Cette fête-là doit nous inspirer parce qu'elle véhicule justement des valeurs de pardon, des valeurs d'humilité, des valeurs qui rappellent qu'il y a une autorité qui existe et à laquelle on doit se soumettre. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde de plus en plus malade de haine, dans un monde de plus en plus malade de mensonges, dans un monde de plus en plus malade d'égocentrisme, cette fête-là peut nous servir.
Après l'immolation du mouton, la viande est remise aux femmes pour le partage entre les différents membres de la famille. Mais surtout, une part est réservée aux démunis. Traoré Nana Amou.
Bonne fête de Tabaski à tout le monde. Je demande pardon à tous ceux qui, un jour, j'ai offensé, j'ai dit quelque chose de mal. Que Dieu nous montre pour l'année prochaine.
Avec la viande, c'est parti pour une semaine de consommation, mais qui doit se faire avec modération. C'est ce que conseille Dr Issa Ben Zakour, médecin-chef du district sanitaire de Ségou.
Ce que moi, je peux conseiller à vraiment mes concitoyens, c'est de manger tant que faire se peut la viande qu'on appelle communément rouge. Ça dit sans graisse. Et si les gens peuvent vraiment manger de la viande braisée, c'est encore mieux. À défaut, si on est obligé de manger cette viande-là, il ne faut pas vraiment faire la cuisson avec l'huile qu'on achète sur le marché-là. C'est tant qu'on peut utiliser la graisse qui provient de la viande de mouton, on peut l'utiliser pour faire la cuisson. C'est encore mieux. En plus de cela aussi, ce que je peux conseiller, Sari, il ne s'agit pas de manger la viande de façon excessive. Nous avons pratiquement toute une semaine. Il faut préférer les grillades.
Pour cette fête de Tabaski, le président de la République a prié à la grande mosquée de Bamako. Il a exhorté tous les fidèles musulmans à plus de prières et de bénédictions pour la paix et la stabilité dans un Mali uni et prospère. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Ici aux États-Unis, bien que la décrue ait commencé, à Houston, plusieurs autoroutes des quartiers proches des barrages et réservoirs sont encore sous l'eau. De nombreuses victimes des inondations provoquées par l'ouragan Harvey restent dans des abris et plusieurs mosquées ont ouvert leurs portes aux communautés. Les bénévoles et résidents temporaires d'une mosquée de l'ouest de Houston ont fait face à une situation inattendue. Les précisions de Pascal Serra.
Rester enfermé dans les abris n'a pas été facile pour les victimes des inondations qui ne savent toujours pas quand elles pourraient rentrer chez elles. C'est le cas de Sarah Al-Zahat, âgée de 19 ans, originaire d'Arabie Saoudite, en visite à Houston pour 4 mois.
On n'a jamais connu une telle tempête dans mon pays d'origine. Nous ne l'avons donc pas prise au sérieux lorsque l'inondation a eu lieu. C'était une nouvelle expérience.
Al-Azad, dont la mère est indonésienne et le père syrien, est au Texas avec sa famille et ses cousins. Tandis que les enfants s'amusent, tous les adultes sont impatients de rentrer chez eux, ne sachant pas quand l'évacuation obligatoire sera levée. Néanmoins, ici, ils sont en sécurité et bénéficient d'une grande bienveillance. Écoutons le témoignage d'Ilyas Choudhry, un volontaire américain d'origine pakistanaise.
Nous étions vraiment surpris. Beaucoup de gens sont venus se réfugier temporairement ici. Et puis des personnes sont venues en chercher d'autres pour les emmener chez elles. Cela nous a vraiment touchés.
Les habitants du côté ouest de la ville de Houston, qui n'ont pas subi d'inondation, sont venus dans ce refuge pour faire des dons de draps, couvertures et jouets. Pour certains, c'est la première fois qu'ils entraient dans une mosquée. Gina Mandel, une bénévole, raconte.
I've never been inside a mosque. I was a bit apprehensive.
Je n'ai jamais été à l'intérieur d'une mosquée. Je ne savais pas quelle entrée emprunter. Et une jeune femme m'a rencontrée dans le parking et m'y a accompagnée.
Cette visite a dissipé bien des présomptions pour Gina Mandel.
Les hommes musulmans sont beaucoup plus chaleureux que je ne le pensais. Pour les femmes, je n'étais pas surprise. Mais pour les hommes, j'ai toujours eu de l'appréhension, car je ne connais pas les traditions musulmanes, ni comment me comporter vis-à-vis d'eux.
C'est aussi une nouvelle expérience pour Choudhry, qui vient du Pakistan.
Des personnes de toutes confessions se sont unies. Elles ne sont motivées que par des valeurs humaines, rien d'autre. Ce sont juste des êtres humains s'aidant mutuellement.
Cet élan de générosité crée une autre perception des États-Unis selon plusieurs volontaires sur le terrain. Et le travail en commun ne peut que rendre plus forts les habitants de Houston et des autres villes affectées, surtout durant les efforts de reconstruction.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Cheikh Chéro. Présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. En restant en contact sur Facebook, rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
From the south side, got braids in her hair. First time I seen her walk by, and I about fell off my chair. Had to get her number, it took me like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac seats. Body like a back row, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 in 30. No hurry, I'ma take it slow, just as fast as I can.
taste like honey, so thick and so sweet. There ain't no curves like her on them downtown streets. Body like a back road, driving with my eyes.